Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien à l'écoute de Radio Vatican. Dans cette édition, nous reviendrons sur les activités du pape au cours de la semaine qui s'achève avant de nous rendre au Nigeria où le père Oliver Buba a été libéré le jeudi 30 mai par ses ravisseurs après son enlèvement le 21 mai et en Ouganda où les chrétiens se préparent à la célébration de la journée des martyrs, une fête qui se célèbre comme à chaque année le 3 juin. Après l'actualité sociopolitique africaine et la méditation avec la lecture de la solennité du Très-Saint-Sacrement, nous échangerons avec notre invité du jour, le prêtre jésuite camerounais Jean Messingué, directeur du COPAC, le centre universitaire jésuite de promotion de la santé mentale et du bien-être psychologique en Afrique.
Radio Vatican, France et Afrique, Françoise Niamier.
Plusieurs activités ont été au programme du pape au cours de cette semaine qui s'achève. La synthèse avec Christian Lossambé.
Après la célébration de la première édition de la Journée mondiale des enfants qui a eu lieu les 25 et 26 mai, le Saint-Père a poursuivi normalement ses activités avec une semaine riche en audiences. Le pape a accueilli dans la matinée du samedi l'association chrétienne ouvrière italienne, ACLI en sigle, à l'occasion du 80e anniversaire de sa fondation. Dans son discours, François les a invités à rendre grâce au Seigneur pour le chemin parcouru et pour leur dévouement au service des travailleurs, des retraités, des jeunes, des étrangers et de tant d'autres qui se trouvent dans des situations de besoin. Passant en revue l'histoire de cette association, le Saint-Père a invité ses membres à promouvoir davantage cinq styles de vie qui, selon lui, se présentent comme fondamentales pour leur parcours. Il s'agit du sentiment d'appartenance créatif et dynamique, du style synodal dans le travail, du style démocratique, du style pacifique et chrétien, afin que leur action ait le style du Christ et le rende présent dans le monde, leur a expliqué le pape. Dans un télégramme adressé samedi aux clergés, aux religieux et aux fidèles laïcs de l'archidiocèse de Castries, l'évêque de Rome leur a exprimé ses condoléances et sa proximité suite au décès du cardinal Kelvin Edward Félix, archevêque émérite de cette circonscription ecclésiastique dans les Caraïbes, survenu jeudi 30 mai à l'âge de 91 ans. Et dimanche 2 juin 2024, en la solennité du Très-Saint-Corps et Sang du Christ, le Saint-Père présidera la célébration eucharistique dans la basilique Saint-Jean de Latran à 17h à Rome. Suivra ensuite la procession eucharistique qui se déroulera le long de la Via Merulana jusqu'à la basilique papale de Sainte-Marie-Majeure. Le pape François a adressé vendredi 31 mai un message aux participants au congrès de l'Association des parents d'élèves de l'enseignement libre, appel en sigle, réuni du 30 mai au 2 juin à Valence, en France. À cette association réunie pour réfléchir sur leur mission au service de la communauté éducative, François a invité les membres de l'appel à promouvoir l'éducation intégrale de l'homme pour assurer la construction d'un monde plus humain et lui garantir sa dimension spirituelle, en aidant les jeunes à découvrir le projet de Dieu pour chacun d'entre eux. Au cours de l'audience générale du mercredi 29 mai, le pape a inauguré un nouveau cycle de réflexion sur le thème « L'Esprit et l'Épouse ». L'Esprit Saint guide le peuple de Dieu vers Jésus, notre espérance. Pour cette première catéchèse, le pape a souligné l'importance de la contemplation de la création à l'image de saint François d'Assise. À l'issue de l'audience générale du mercredi, François a tourné ses pensées vers le peuple de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, touché par un gigantesque glissement de terrain qui aurait fait plus de 2000 morts. Il a aussi lancé un appel à la prière pour les victimes innocentes des conflits en Ukraine, Palestine, Israël, Myanmar et ailleurs dans le monde. Et pour ce mois de juin, le Saint-Père nous invite à prier pour le sort des migrants qui fuient les guerres ou la faim afin qu'ils puissent trouver l'hospitalité ainsi que de nouvelles opportunités de vie.
Enlevé le 21 mai dernier au presbytère de la paroisse Santa Rita dans l'état d'Adamawa au Nigeria, le père Oliver Buba a été libéré le jeudi 30 mai. L'annonce de sa libération a été rendue publique par Mgr Stephen Dami Mamza, évêque de Yola, où office le père Buba. Le prêtre nigérien a été enlevé le 21 mai vers 1h du matin dans le réfectoire du presbytère de la paroisse Santa Rita. Après cette libération, Mgr Mamza a, au nom des prêtres, des religieux et laïcs du diocèse de Yola, exprimé sa gratitude à toutes les personnes de bonne volonté pour les prières et les manifestations de solidarité exprimées en ces temps difficiles et éprouvants. Les Ougandais se préparent à célébrer la journée des martyrs, une fête qui se célèbre comme chaque année le 3 juin. En prélude à cette célébration, environ 820 pèlerins du diocèse de Lira, dans le nord de l'Ouganda, parcourent 380 km à pied depuis le 18 mai afin de prendre part à la liturgie nationale du 3 juin prochain au sanctuaire de Namugongo. Cette journée des martyrs est célébrée en mémoire des convertis au christianisme exécutés sous le règne du roi Mwanga II entre 1885 et 1887 dans le royaume historique de Buganda, dans le sud de l'actuel Ouganda. L'actualité sociopolitique africaine à présent. L'Égypte accueille dimanche 2 juin une réunion avec Israël et les États-Unis sur la réouverture du passage frontalier de Rafah vers Gaza. C'est ce qu'a annoncé samedi le média Al-Qaïra News, proche du renseignement égyptien. Citant un haut responsable, le média rappelle que le Caire exige un retrait israélien total du terminal de Rafah entre l'Égypte et la bande de Gaza, principal point de passage de l'aide humanitaire vers le territoire palestinien dévasté par la guerre. Les autorités nigériennes veulent renforcer la sécurité d'installations électriques et dépôts de carburant de Niamey, la capitale, face à la menace de sabotage du Front patriotique de libération de Mahamoud Salah, un groupe hostile au régime militaire, a indiqué vendredi la télévision nationale. Au Burkina Faso, Maître Guy Hervé Kam, un célèbre avocat et leader de la société civile, est poursuivi pour complot contre la sûreté de l'État et association de malfaiteurs après avoir été incarcéré, a annoncé vendredi sa défense appelant à sa libération. Un soldat sud-africain a été tué et 13 autres ont été blessés jeudi par des rebelles du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé vendredi dans un communiqué l'armée sud-africaine. L'Afrique du Sud a déployé 2900 soldats dans l'est de la RDC à la mi-décembre dans le cadre d'une force régionale d'Afrique australe, comprenant également des militaires du Malawi et de la Tanzanie chargés d'aider les forces gouvernementales de la RDC à lutter contre les rebelles du M23. Le père jésuite Antoine Curiel nous introduit à la méditation avec les lectures de la solennité du Très-Saint-Sacrement.
Les lectures proposées en cette solennité du Saint-Sacrement nous invitent à reprendre conscience du sens profond que revêt l'alliance avec Dieu. Il s'agit d'un don qui transforme nos vies. La première lecture dresse un cadre solennel pour l'alliance conclue entre le Seigneur et Israël. Après avoir entendu Moïse rapporter les ordonnances du Seigneur, le peuple s'exclame « Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique ». Moïse fait alors préparer holocauste et sacrifice de taureaux, asperge l'autel puis le peuple avec le sang des animaux sacrifiés, et il conclut la célébration en disant « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous ». L'Alliance est donc placée dans un cadre liturgique solennel. Un vocabulaire grandiose est également utilisé par l'auteur de la lettre aux Hébreux lorsqu'il présente le Christ comme le grand prêtre et la victime, offrant lui-même son sang pour que nous puissions rendre un culte au Seigneur. Mais de son côté, l'extrait de l'évangile de Marc lu ce dimanche ne situe pas la dernière scène dans un cadre qui impressionne. Il est simplement dit que les disciples doivent repérer un homme portant une cruche d'eau qui les guidera vers une salle où préparer la Pâque. Loin de recourir à un vocabulaire grandiose pour présenter l'institution de ce que nous vivons aujourd'hui comme l'Eucharistie, l'évangéliste Marc adopte un langage ordinaire pour faire sentir toute la gravité de la dernière scène. Jésus rompt le pain, le bénit et le distribue à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ». Jésus prend la coupe, rend grâce et après que tous y aient bu, déclare « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. » L'alliance dont il était question avec Moïse et le peuple au désert est reprise ici sous la forme d'un repas durant lequel, comme à toute célébration de la Pâque juive, est commémorée la sortie de l'esclavage vécu en Égypte et durant lequel est également annoncé le passage de Jésus vers une vie nouvelle. Les disciples et une multitude d'hommes et de femmes après eux sont eux aussi invités, en mangeant ce pain et en buvant à cette coupe, à emprunter la voie ouverte par Jésus pour, libérés de la morsure du péché et de la mort, passer, grâce à lui, dans cette vie nouvelle. Telle est l'alliance que nous célébrons aujourd'hui, un don radical, libérant et bouleversant. L'alliance dont parle Jésus, celle que nous célébrons dans chaque Eucharistie, ne se présente pas comme un contrat entre deux partenaires qui auraient défini les conditions de leur relation mutuelle pour ensuite sceller leur accord dans un document juridique rendu officiel par la position de leur signature. Cette alliance est un don offert et reçu, un partage et un engagement. Lors de la scène, prélude à la Passion et à la Résurrection, Jésus fait référence à son propre corps et à son propre sang. Il dit ainsi clairement qu'il se donne, totalement et sans réserve. Le fait que les disciples mangent le pain que leur donne Jésus et boivent la coupe que leur tend Jésus indique qu'ils acceptent ce don, qu'ils veulent en vivre et qu'ils désirent le partager. Ils reconnaissent que Jésus ouvre une voie nouvelle devant eux, celle qu'ils ont déjà entreaperçue à travers les gestes et les paroles de Jésus durant sa vie publique et celle qu'ils vont découvrir, non sans résistance, lors de la Passion et de la Résurrection. En acceptant le don que Jésus fait de lui-même, les disciples placent ainsi leur vie dans une perspective nouvelle. Nous tous, qui désirons communier au corps et au sang du Christ, nous nous situons dans la continuité de cette dynamique inaugurée il y a près de 2000 ans. Puisse cette dynamique renouveler sans cesse nos vies.
Notre invité du jour est le père jésuite camerounais Jean Messengue, directeur du COPAC, Centre universitaire jésuite de promotion de la santé mentale et du bien-être psychologique en Afrique, dont le siège est à l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus, ITCJ, à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Avec lui, nous parlons de la mission et des objectifs de ce centre universitaire.
Le Centre de counseling et de pastoral clinique, le COPAC, pour promouvoir la santé mentale en Afrique, s'intéresse principalement à la promotion des compétences pour le soutien psychologique de première ligne. Et donc, nous renforçons les compétences des personnes qui interviennent en première ligne dans le domaine de l'écoute, de l'accompagnement ou de la relation d'aide. Donc, on voit par là les prêtres, les consacrés, agents pastoraux laïcs, mais aussi assistants sociaux, éducateurs. Donc, toutes ces personnes qui interviennent dans les secteurs communautaires en première ligne pour les aider à développer des compétences qui leur permettent d'intégrer le soutien psychologique de première ligne dans leurs activités. Alors, le COPAC, pour atteindre son objectif de promotion de la santé mentale en Afrique, d'abord, nous avons le volet formation. Nous offrons des formations certifiantes et depuis quelques années, des formations, des diplômes universitaires en soutien psychologique de première ligne. À côté du volet formation, nous avons des cellules d'accompagnement. Ensuite, nous avons le volet intervention en santé mentale communautaire ou en contexte humanitaire.
Pourquoi le choix de la santé mentale?
Alors, on se focalise sur la santé mentale parce que nous avons identifié que c'est un volet oublié, marginalisé, tant au niveau de nos États qu'au niveau de l'Église, dans la promotion de l'humain, dans la promotion du bien-être et de la santé. La santé mentale est très peu prise en compte et pourtant, elle est déterminante. Au niveau de l'Église, l'augmentation des demandes d'écoute et d'accompagnement révèle clairement qu'il y a plus de problèmes existentiels que de problèmes spirituels. Mais comment accompagner ces personnes en prenant en compte leur humanité fragilisée, traumatisée, en tant que pasteur, si on n'intègre pas les outils psychologiques dans le dispositif d'accompagnement pastoral, psychopastoral ou spirituel?
Comment intervenez-vous sur le terrain?
Nos interventions se font en collaboration avec ceux qui se forment au COPAC même, mais aussi avec les collègues enseignants. En Côte d'Ivoire, nous avons intervenu lors de l'arrivée des jeunes de Tunisie. Nous avons aussi intervenu auprès des familles qui étaient l'année dernière, il y a eu le retour volontaire des immigrants, près de 2000 de la Tunisie. Ils n'étaient plus voulus, tous les étrangers n'étaient plus voulus. Ils étaient chassés, ils étaient traumatisés en Tunisie. C'est un contexte psychologiquement pénible pour certains traumatiques parce qu'ils ont vécu des événements compliqués.
Vous venez de mener des activités au Burkina Faso. Que pouvons-nous savoir de ces activités?
Nous sommes venus pour deux activités conjointes. C'est la formation de certification en soins pastoraux et bien-être des personnes vulnérables adressée à 57 agents pastoraux laïcs de l'Église du Burkina Faso. Ça, c'est le premier groupe. En fait, il y aura un deuxième groupe, mais pour le moment, c'est ce groupe-là. Et donc, ici, il est question de les former, de les sensibiliser et de les outiller pour qu'ils soient aptes à promouvoir la culture du bien-être, en particulier le bien-être des personnes vulnérables au sein des institutions de l'Église et des familles chrétiennes. Donc, à l'issue de cette formation, nous sommes allés sur le site des personnes déplacées de Pabré. Nous sommes allés pour leur offrir, d'une part, les dons que nous avons collectés depuis Abidjan. Il y a eu ces dons, mais je dirais plus que ces dons, on a voulu intégrer la dimension psychologique. On a eu un moment d'exhortation, de psychoéducation pour les aider à comprendre certaines réactions, certaines manifestations, certains ressentis qu'ils pourraient vivre en lien avec l'événement traumatique que eux tous ont vécu en tant que victimes des traumatismes. Ensuite, nous avons créé des groupes de parole, plusieurs groupes d'hommes, plusieurs groupes de jeunes, d'enfants et plusieurs groupes de femmes pour explorer, en fait, ce sont des groupes de parole thérapeutiques avec ceux qui ont suivi la formation jusqu'à hier. Et donc, pour ceux qui ont suivi la formation et une expérience avec les personnes vulnérables, et pour ces personnes vulnérables, c'est une occasion d'avoir un espace thérapeutique. Et c'était émouvant de voir ces enfants raconter, peut-être pour la première fois où on leur pose des questions sur ce qu'ils ont vécu, de raconter des expériences difficiles à entendre. Quand un enfant de 10 ans vous dit « On a coupé la tête de mon papa, on l'a mis sur ma poitrine », mais vous regardez cet enfant debout, vous avez la chair de poule. Et certaines mamans disent, c'est la première fois qu'elle se retrouve en train de danser. Parce qu'après le moment de l'écoute et l'offre des dons, c'était impressionnant de voir la joie. Mais cette joie, pour moi, ce n'est pas seulement lié aux dons, parce que les dons, ils en reçoivent tout le temps. Mais par contre, offrir un espace d'écoute et de parole, c'est des choses qu'on leur offre presque pas, parce qu'on ne pense pas spontanément que la santé mentale, tant que la personne n'est pas couchée, reste un défi quand on a vécu un événement traumatique. Je crois qu'au moins pour ces jours, ça les a soulagés, mais nous ne prétendons pas traiter un traumatisme en une séance.
Le père Jean Messengue, directeur du Centre universitaire jésuite de promotion de la santé mentale et du bien-être psychologique en Afrique.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Amis auditeurs, mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons un point final à cette édition de notre programme. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. À très bientôt.